Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Confinement ou mesures de freinage? Une partie du débat politique porte aujourd'hui sur la bonne façon de qualifier les nouvelles restrictions sanitaires. 16 départements sont depuis hier placés sous un nouveau régime de confinement. Il fallait agir maintenant, estime le conseil scientifique. Véronique Julia, dans un instant. Les entreprises doivent faire plus pour le travail à distance. La règle est de 4 jours de télétravail par semaine, rappelle le gouvernement. Les blocages ne viennent pas seulement des entreprises, répond le MEDEF. Conséquence de l'épidémie sur le tourisme, la ville de Lourdes, frappée par la crise sanitaire à l'approche de Pâques, veut faire évoluer son modèle touristique. Dans ce journal également, 2001 FO32, un nom digne de la guerre des étoiles pour un astéroïde qui frôlera la Terre cet après-midi. Invité de ce journal, Patrick Michel, astrophysicien et spécialiste des astéroïdes. Et puis en rugby, on reviendra sur la victoire historique hier soir 32-30 du 15 de France face au Pays de Galles dans le tournoi des 6 nations. La météo après la grisaille du matin, l'après-midi vient l'éclaircie. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Un Français sur trois est donc depuis hier soumis à un nouveau régime de confinement. De nouvelles restrictions prises pour faire baisser le nombre de malades Covid en réanimation dans les hôpitaux. On sait qu'il faut 2 ou 3 semaines avant de mesurer l'effet de ces mesures sur les admissions en réanimation. Ces dernières semaines, on a pu avoir le sentiment que les alertes lancées par les scientifiques n'étaient pas toujours retenues ou suffisamment prises en compte par le gouvernement. Ce matin, l'un des membres les plus éminents du conseil scientifique, Arnaud Fontanet, médecin épidémiologiste et chercheur, s'exprime dans le journal du dimanche après les mesures de confinement qui concernent depuis hier donc 16 départements français. C'est maintenant, dit-il, qu'il faut tester l'impact de ces nouvelles mesures. Bonjour Véronique Julia, selon Arnaud Fontanet, d'autres départements risquent de rejoindre le club des 16 confinés.
Oui, Arnaud Fontanet nous dit clairement que d'autres régions vont sans doute devoir serrer la vis. Il n'y a guère que la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et même la Corse qui pourraient y échapper. Car depuis le début, ces régions ont toujours mieux résisté. À part cette façade atlantique, donc, les autres régions ont toutes des indicateurs en progression. Et pour le professeur Olivier Guérin, d'ailleurs, membre du conseil scientifique, interrogé ce matin par France Info, le confinement extériorisé, si on peut dire, qu'on vit en ce moment en Île-de-France, serait même tout à fait indiqué dès maintenant dans ces régions pour contenir le nombre de cas.
Les mesures qui ont été choisies sont des mesures assez intéressantes, mais plutôt pour des départements ou des régions qui sont en progression et encore assez basses. À mon sens, c'est vraiment sur ces régions-là que finalement ces mesures-là seront probablement le plus efficaces. C'est ce qu'on a dit dans plusieurs rapports et avis du Conseil scientifique. Le mot-clé, c'est l'anticipation.
Critique à peine voilée sans doute d'un manque d'anticipation en Île-de-France. Ce qui nous sauvera en tout cas, on le sait, c'est le vaccin. D'après Arnaud Fontanet, la vaccination pourrait d'ici mai ou juin permettre de réduire de 50% le nombre des hospitalisations par rapport à une situation sans vaccin.
Et puis Véronique, il y a la question des écoles. Faut-il les laisser ouvertes comme le souhaite le gouvernement ?
Alors là-dessus, Arnaud Fontanet est moins formel. Pour lui, la question d'une fermeture prochaine des écoles se pose encore. L'école est, dit-il, le talon d'Achille du dispositif actuel, car le maintien du présentiel n'est pas sans risque. Il cite d'ailleurs l'étude Comcor menée par l'Institut Pasteur et qui a montré qu'avoir un lycéen ou un collégien à la maison augmente de 30% nos chances d'être infecté. Ce ne serait pas le cas chez les enfants du primaire, mais le variant anglais qui est plus contagieux pourrait avoir changé la donne. Bref, pour l'épidémiologiste, la demi-jauge dans les lycées est une bonne chose, mais il faudrait élargir la mesure au collège. Et puis partout, renforcer les précautions pendant les repas, en évitant les regroupements et surtout en dépistant davantage. Arnaud Fontanet cite en exemple l'Autriche où les élèves du primaire font, dit-il, 2 autotests par semaine.
Véronique Julia, merci. Et puis il y a la communication, la sémantique et ce que l'on veut transmettre qui a une grande importance. Ne parlez pas de confinement, on n'empêche pas les Français de sortir, explique ce matin le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le gouvernement refuse à employer le terme de confinement. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement chez nos confrères de BFM TV.
C'est pas un confinement. Un confinement, on vous demande de rester chez vous, de vous isoler à l'intérieur. C'est pas la logique de ce qui a été décidé, des mesures de freinage qui ont été annoncées. Pourquoi ? Parce que depuis un an, on a beaucoup appris sur ce virus. On a appris sur la manière dont il se transmet, sur la manière de s'en protéger. Et on a notamment appris que quand vous êtes en extérieur, que vous respectez les gestes barrières, la distance, le masque, etc., vous avez infiniment moins de risques de contracter l'épidémie que quand vous êtes en intérieur. Et donc oui, il y a un an, on disait restez chez vous. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit.
Gabriel Attal. Alors forcément, l'opposition joue son rôle et ironise sur ce confinement qui ne veut pas dire son nom. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, invité à la mi-journée de questions politiques d'Ali Badou, a bien insisté sur ce point très critiqué par l'opposition de tous bords et jugé incompréhensible.
Nous sommes donc des confinés déconfinés qui avons l'autorisation de circuler sans exagérer. Et nous sommes invités à nous confiner tout en respirant dehors. Bon, ça me paraît d'une clarté tout à fait grande. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ils nous disaient il y a quelques mois. Ils n'ont jamais rien prévu, rien anticipé, parce qu'ils avaient en tête une idée qui était soit qu'un vaccin allait surgir par Sanofi, soit que les gens s'immuniseraient tout seuls. Je veux donc dire qu'il est possible de prévoir, d'organiser, et en tout cas d'avoir une autre tactique que le confinement, qui est une méthode moyenâgeuse.
Jean-Luc Mélenchon. Parmi les règles pour éviter les contaminations en entreprise, le Premier ministre Jean Castex l'a rappelé, c'est 4 jours de télétravail par semaine quand les métiers le permettent. La contamination au travail représente 15% des cas identifiés de Covid, ce qui est assez significatif. Certains métiers peuvent appliquer la règle des 4 jours de travail à distance, mais visiblement, beaucoup d'entreprises n'y arrivent pas. Selon Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, les blocages ne viennent pas seulement des entreprises.
La première chose qu'il faut dire, c'est que les entreprises jouent le jeu. Le problème, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la lassitude ou parfois la détresse de certains salariés qui n'en peuvent plus de l'isolement, qui ont peur de l'isolement. Et la première question, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu jeudi, la première question des salariés jeudi soir, c'était est-ce qu'on peut aller télétravailler en dehors de la région parisienne, chez nos parents pour les jeunes, dans notre maison secondaire pour les plus anciens, parce qu'ils n'avaient pas ce souhait d'être dans des conditions d'isolement, dans pas beaucoup de mètres carrés parfois. Et donc, voilà, il y a cette difficulté qui n'est pas forcément la difficulté des entreprises, qui encore une fois jouent le jeu, mais des salariés qui, après un an de confinement et de télétravail parfois forcené ou forcé, souhaitent des aménagements.
Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF avec Hercine Lebovitch. Cette épidémie de coronavirus a des conséquences en chaîne. Une ville a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire, la ville de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, un haut lieu de pèlerinage catholique et deuxième parc hôtelier de France. Lourdes vit au ralenti depuis un an, privée de ses millions de touristes étrangers et malgré les aides de l'État. La crise sanitaire a forcé la ville de Lourdes à faire évoluer son modèle touristique alors que la saison va débuter avec le dimanche des Rameaux la semaine prochaine. Mathilde Dehimi.
Le vice-recteur du sanctuaire reste marqué par une image il y a un an, Monseigneur Xavier Darode.
Être seul à la grotte, sachant qu'il y a des milliers de personnes qui nous regardent et nous recevions tous les jours les dizaines de milliers d'intentions de prière, c'est bouleversant.
Bouleverser aussi les habitudes bien rodées d'un tourisme de masse. Le sanctuaire s'est ouvert au monde numérique et prépare l'accueil des pèlerins cet été avec un besoin de renfort, pressant Monseigneur Darode.
Beaucoup vont avoir à déposer leur fardeau, à venir parler aussi avec des prêtres ou avec des laïcs. Et nous avons travaillé tout particulièrement à développer un centre d'écoute.
Le sanctuaire se maintient à flot grâce aux aides de l'État et aux dons, mais dans les rues adjacentes, boutiques et hôtels ont tour à tour fermé.
Vous avez entre 85 et 90% de perte de chiffre d'affaires pour tout le monde économique lié à ce tourisme.
Et c'est toute la ville de 15 000 habitants qui est touchée par ricochet, explique le maire de Lourdes, Thierry Lavitte.
La taxe de séjour, elle n'a pas été versée. La ville se voit amputée de 1,5 million à 1,6 million. C'est énorme. Donc ça, c'est très très compliqué à gérer, puisque comment fait-on pour fonctionner au niveau de la ville avec des budgets très très restreints.
Une somme compensée par l'État, ce modèle du tout religieux est désormais obsolète, dit le maire, qui veut ouvrir Lourdes, notamment au tourisme vert.
Mathilde Dehimi, en Europe, l'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis contre le coronavirus. Angela Merkel, la chancelière, entend prolonger les restrictions jusqu'au mois d'avril. Une réunion est prévue demain avec les régions allemandes. À l'étranger encore, en Birmanie, des manifestations jour et nuit. Les manifestants pro-démocratie se sont rassemblés cette nuit contre la junte dans plusieurs villes du pays. Depuis le putsch du 1er février dernier, la répression militaire a fait près de 250 victimes. À Taïwan, où vivent des milliers de Birmans, la contestation et le courage des manifestants est mis en avant et salué. Adrien Simor, à Taipei, a recueilli le témoignage de Birmans installés à Taïwan.
La révolution doit réussir, démocratie pour le peuple, scandent en chœur plusieurs centaines de personnes. Parmi elles, Madame Ni vient tout juste d'appeler sa mère, restée en Birmanie.
Tous les jours, elle voit la violence de la répression. Elle est terrifiée. C'est très important pour moi de venir aujourd'hui exprimer mon soutien.
Environ 40 000 Birmans résident à Taïwan. Certains y sont installés depuis plusieurs générations. D'autres sont arrivés plus récemment. C'est le cas de la jeune Xie Ying-hua.
rose blanche. Entre les mains, elle a les larmes aux yeux.
On ne veut pas retomber dans la situation de notre enfance, où on avait peur de tout. Quand on voit Taïwan, on se dit que c'est un exemple à suivre, celui d'un vrai système démocratique et libre.
Plusieurs Taïwanais, mais aussi des Hongkongais, sont d'ailleurs venus apporter leur soutien. Une présence qui touche Coco Dou. Ce militant d'une cinquantaine d'années a fui la Birmanie après l'échec du mouvement étudiant de 1988.
C'est ce qu'on appelle l'alliance du thé au lait. La Birmanie, la Thaïlande, Hong Kong, tous ces peuples dont la démocratie est menacée. On se soutient les uns les autres maintenant.
Une alliance dont les Taïwanais, menacés d'invasion par Pékin, se revendiquent également. Derrière le coup d'état militaire se cachent les forces de la Chine communiste, a d'ailleurs lancé un député taïwanais lors du rassemblement. Taipei, Adrien Simor, France Inter.
Et je vous propose maintenant de lever la tête et les yeux au ciel, non pas pour une nouvelle information inquiétante en cette période anxiogène en temps de pandémie, mais pour une visite dans l'espace. Cet après-midi, le plus gros astéroïde de l'année va frôler la Terre à tout de même 2 millions de kilomètres de distance. Pas de risque de collision, mais un spectacle sans doute extraordinaire pour ceux qui auront la chance de l'apercevoir. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Dites-nous tout sur cet astéroïde.
Son nom, 2001 FO32, taille 460 à 680 mètres de diamètre, poids inconnu encore, vitesse de croisière 124 000 km/h et distance de la Terre lors de son passage, vous le disiez, 2 millions de kilomètres, c'est 5 fois la distance entre la Lune et nous. Alors c'est suffisamment loin pour qu'il n'y ait pas de risque de collision, assure la NASA, mais assez près pour que cet astéroïde soit classé comme potentiellement dangereux. De la famille des Apollon, 2001 FO32 fait le tour du Soleil en moins d'un an. Il sera le plus proche de nous cet après-midi à 17h02, très précise. Mais ne scrutez pas le ciel à cette heure-là, vous ne le verrez pas à moins d'être bien équipé. En fait, une fois la nuit tombée et avec un télescope d'au moins 20 cm de diamètre, les astronomes amateurs de l'hémisphère sud ou des basses latitudes nord pourront apercevoir un petit point blanc. Il se déplacera comme un satellite.
Faustine Calmel, 17h02.
Oui.
On a bien retenu
très précis
invité ce journal. Patrick Michel, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et spécialiste des astéroïdes. Bonjour Patrick Michel.
Bonjour.
Alors on nous dit pas de risque de collision, mais on dit aussi que c'est un astéroïde potentiellement dangereux. Pourquoi ?
Ben parce qu'en fait, il fait partie des objets qui s'approchent de temps en temps près de la Terre, sans pour autant, pour le coup, nous menacer, puisque celui-ci ne présente aucun risque de collision. Et au contraire, le fait qu'il passe très près de la Terre nous permet de faire en quelque sorte de la géologie avec un télescope, parce qu'en passant si près de la Terre, on peut accéder à des informations auxquelles on n'accède pas quand il passe trop loin. Et pour nous, c'est très important.
Alors justement, qu'allez-vous observer, qu'allez-vous apprendre avec ce passage ?
Alors là, on va pouvoir utiliser des télescopes qui nous permettent d'avoir quelques données sur sa composition. Et puis aussi, avec des radars, on peut accéder à des informations sur sa forme et peut-être même quelques propriétés de surface qui sont très intéressantes pour nous. Parce qu'en fait, ces objets-là nous racontent une histoire du système solaire, puisque ce sont les restes des briques qui ont formé nos planètes. Et si on veut comprendre comment les planètes sont formées, ben, il faut pouvoir remonter le temps arriver à une époque qui précède cette formation planétaire, et ces objets en ont gardé la mémoire. Et par ailleurs, évidemment, si l'un d'entre eux nous menaçait sur des échelles de temps relativement longues, eh bien, il vaut mieux savoir de quoi ils sont faits pour pouvoir s'en protéger.
Alors, on dit qu'il y a, vous parliez de briques, hein, il y a près de 3000 briques ou astéroïdes qui ont été observés autour de la Terre, ça me paraît énorme.
Ah non, il y en a plus que ça. On a identifié plus de 90% des objets plus grands que 1 km qui s'approchent de la Terre. Il y en a à peu près un millier. Et puis si on monte à des objets de la centaine de mètres, on en a des dizaines de milliers. Mmh. Donc c'est quand même, on a une population assez grande. La plupart d'ailleurs viennent d'une ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Et donc ils ont cet avantage, ceux qui passent près de nous, c'est qu'ils sont plus aisément accessibles pour les observer avec le télescope et voire même avec des missions spatiales, puisqu'on a eu ces missions extraordinaires de retour d'échantillons d'astéroïdes aux Osiris-Rex de la NASA et Hayabusa 2 de la JAXA. D'ailleurs, celle-ci a ramené déjà les échantillons sur Terre.
Oui.
Eh bien, on peut y accéder plus facilement. Donc pour nous, c'est vraiment des pierres extrêmement précieuses, parce qu'encore une fois, elles ont gardé cette mémoire des premiers instants du système solaire, et peut-être même que les astéroïdes ont joué un rôle dans l'émergence de la vie sur Terre, puisque certains contiennent de la matière organique, et peut-être d'ailleurs celui-ci, hein, on verra avec la composition qu'on va pouvoir obtenir. Et bien, à la fin de la formation de la Terre, on sait qu'on a eu beaucoup d'impact, et peut-être qu'ils ont délivré le matériau, l'eau et la matière organique qui a permis à la vie d'émerger sur Terre. Et on espère pouvoir le vérifier avec ces fameux retours d'échantillons d'astéroïdes qu'on va analyser en laboratoire.
Patrick Michel, à partir de quelle taille un astéroïde est-il dangereux pour la Terre? Est-ce qu'il peut heurter la Terre? À quelle fréquence? Et comment on se protège?
Oui, alors bien sûr, selon la taille, les dégâts seront plus ou moins importants. Donc un objet de 1 km, on estime que c'est le seuil de taille au-delà duquel la catastrophe est globale, c'est-à-dire que ça a des répercussions sur l'ensemble du globe. Puis ensuite, on va vers un peu plus d'une centaine de mètres, où là, c'est un seuil de catastrophe régionale à l'échelle d'un pays ou d'un continent, selon la vitesse. Alors, faut se calmer, les fréquences d'impact sont très faibles. On parle de fréquences d'impact de l'ordre de tous les 500 000 ans pour un objet de 1 km. Pour la centaine de mètres, c'est tous les dizaines de milliers d'années. Donc, et encore une fois, aucun ne nous menace. Simplement, effectivement, c'est le risque naturel le moins probable par rapport à tous les risques auxquels on a affaire, les tremblements de terre, les tsunamis. Mais c'est le seul qu'on peut prédire, prévenir avec des moyens réalisables, raisonnables et qu'on est en train de mettre en œuvre. Et on sait que pour ces phénomènes de faible probabilité mais à potentiellement haute conséquence, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de démontrer ce que l'humanité fait de mieux, c'est-à-dire agir de façon coordonnée à l'échelle internationale. Donc on fait l'inventaire de ces objets pour l'instant depuis le sol et on l'espère aussi avec une mission spatiale, ce qui le fera plus rapidement. Et ça, on peut le faire en une décennie ou deux, pour les objets plus grands que 140 mètres. En parallèle, on va faire une première test de déviation d'astéroïdes avec deux missions de la NASA, la mission DART et la mission de l'Agence spatiale européenne, ouais. ERA, qui a aussi une contribution japonaise. Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'international. Et ça sera fait, un test de déviation, en envoyant un projectile sur un astéroïde en 2022. Et l'ESA arrivera avec son satellite pour sur la scène du crime pour vérifier ce qui s'est passé en 2026. Et puis on fait aussi à l'ONU, eh bien on a des groupes de travail qui s'occupent de proposer une réponse internationale légale et politique. Donc on est vraiment en train de travailler sur ces trois volets, l'inventaire, une méthode de déviation et la réponse coordonnée, légale et politique adaptée.
Tout est fait pour se protéger. Merci Patrick Michel, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. La flamme olympique pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon partira jeudi prochain de Fukushima. Si elle part, les mauvaises nouvelles s'accumulent à 4 mois des JO de Tokyo. Hier, on a appris qu'il n'y aurait pas de spectateurs étrangers autorisés à venir au Japon pour les Jeux. La pandémie mondiale frappe les Jeux d'été et le coronavirus n'est pas la seule menace qui plane sur les JO. Karine Nishimura à Tokyo.
La priorité est d'organiser ces JO à tout prix, critique dimanche le journal Mainichi, qui souligne que la levée intégrale de l'état d'urgence sanitaire ce même jour vise à permettre l'arrivée progressive, sur dérogation, des délégations olympiques. Pourquoi maintenir ces JO dans ces conditions? Est-ce que cela a encore un sens? Interroge le quotidien Asahi. Le coût a flambé à plus de 13 milliards d'euros. Aucune retombée économique positive n'est désormais espérée au Japon. De célèbres coureurs du relais ont jeté l'éponge, le directeur artistique des cérémonies a démissionné et des gouverneurs de départements menacent d'annuler le relais de la torche ou d'interdire tous les spectateurs sur des épreuves prévues dans leur région en cas d'infection. C'est le cas de celui de Saitama.
Si les cas de Covid flambent, le gouverneur a le pouvoir et la responsabilité de décider quand il n'y a pas d'autre solution.
Enfin, les puissants séismes se multiplient ces dernières semaines, ravivant les craintes d'une catastrophe naturelle. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
C'était le match à ne pas manquer. France-Galles hier soir dans le tournoi Destination de rugby. Un match fou. Le 15 de France l'emporte 32-30 dans les arrêts de jeu. Après de multiples rebondissements, carton rouge, carton jaune, plusieurs essais refusés que les Bleus n'arrivent pas à aplatir. Et des Gallois devant au score. Un match de légende. 82e minute. L'arrière Brice Dulin marque avec Fanny Lechevestrier au commentaire.
On essaye de repasser par le centre. Allez, on écarte les ballons. Gaël Fico qui va chercher. Et ouais, l'essai oui. Color. Et là, il n'y a rien à dire. Essai de Brice Dulin. C'est fantastique. Les Bleus qui vont l'emporter sur le final. Ils ont tout donné. Et voilà la victoire tricolore. superbe essai français. Franchement, c'était irrespirable.
Fantastique, hein, c'est bien la radio hein, pour vivre de tels moments. Et on vous donne rendez-vous pour le dernier match vendredi prochain contre l'Écosse au Stade de France pour remporter le tournoi. Les Bleus doivent l'emporter avec le bonus offensif et au moins 21 points d'écart. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Le temps gris arrivé ce matin par le nord de la Loire va lentement gagner la moitié sud au fil de l'après-midi, atteignant ce soir les Pyrénées, le Massif central et le nord des Alpes, en donnant des pluies faibles en plaine et des flocons à partir de 800 mètres d'altitude. Dans un même temps, la moitié nord du pays va retrouver un ciel plus lumineux et partiellement ensoleillé cet après-midi, tandis qu'autour de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane très turbulents vont maintenir un soleil rayonnant toute la journée. À noter que le vent de secteur nord sera comme hier assez désagréable sur la plupart des régions et que le risque d'avalanche reste élevé pour les Pyrénées, les Alpes et la montagne Corse. Enfin, les températures de l'après-midi, souvent sous les moyennes, vont afficher 7 à 9 degrés dans le nord-est, 10 à 12 au nord de la Loire ainsi qu'au sud de la Garonne et 14 à 17 degrés de l'ouest de la Provence au Roussillon.
Jean-Michel Golinski de Météo France.